Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Par les temps qui courent. Tous les soirs, une conversation qui dure une heure. Et ce soir, c'est avec Alexandre Labru.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter,
péter. Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps, qui courent.
Marie Richeux avec Alexandre Labru.
Il y a des néons qui clignotent dans la nuit et amputent le nom de l'hôpital Campanile et transforment le mot « horizon » en chasseur géant de la Grèce mythologique. Tout ça dans la banlieue nord-est de Paris. Le héros ou le anti-héros de votre premier roman, Alexandre Labru, est pompiste. Et s'il aurait adoré être Jean Baudrillard, nous, on adorerait travailler dans une station comme la sienne. L'aventure semble s'y présenter plusieurs fois par nuit, ouvrant de vraies et de fausses pistes narratives pour un livre en morceaux numérotés, comme le sont les pompes à essence. Apparemment, une piste l'intéresse plus que les autres, une cliente japonaise, magicienne et insaisissable, mais qu'il vaudra la peine de suivre, au moins pour se mettre sur la route de quelque chose, puisque de toute façon, la clé USB abritant son manuscrit s'est volatilisée. C'est un livre jubilatoire qui se figure les pensées comme des feux d'artifice figés, et si l'essence venait un jour vraiment à manquer, resterait certainement la poésie et l'humour. Bonsoir à vous, Alexandre Labru.
Bonsoir Marie.
Vous semblez suspicieux.
Non, je vous écoute avec admiration.
On va essayer de tenir ça pendant une heure. Chronique d'une station-service, c'est le titre de votre roman. Il paraît en cette rentrée littéraire aux éditions Verticales. Il a déjà obtenu un grand prix, même avant sa sortie, le 20 août.
Oui, le fabuleux prix Maison Rouge G7 littéraire. Comme un contre-pied au G7 qui s'organise à Biarritz cet été. Et ce prix voulait dire et signifier qu'il n'y avait rien de plus important que la littérature. Et en voulant signifier ça, ils m'ont couronné, donc c'est avec joie que j'ai reçu ce prix, et c'était une fête incroyable aussi, et un peu punk, donc c'était génial.
Tout ça à Biarritz.
Tout ça à Biarritz.
Non loin de la forêt des Landes.
Non loin de la forêt des Landes, oui. Là où j'ai vécu, qui m'a rendu si bizarre.
Ah oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre dans la forêt des Landes?
J'ai vécu 15 ans dans la forêt des Landes et je crois en fait que ce livre est une réponse à cet enfermement. Non, je plaisante à moitié.
Bah, en tout cas, il y a une sorte de boucle qui vous y fait revenir dans ce livre.
Oui, mais alors c'était même prémonitoire. La fin de mon livre est prémonitoire en fait, puisque ça s'est passé réellement. Donc je ne vais pas dévoiler la fin de mon livre, mais c'est je suis resté donc 15 ans dans cette forêt des Landes. Mes parents étaient hippies. Et ils avaient la grande idée, la belle idée de construire une famille et de la faire vivre en plein milieu de nulle part, dans une forêt un peu effrayante, les Landes. Donc je suis issu de cette forêt et j'ai voulu la quitter, forcément. J'ai voulu la quitter en la fuyant. Donc je l'ai fui pour aller en Asie, dans les mégalopoles asiatiques, puisque j'ai vécu, parce que j'ai appris le chinois et ensuite j'ai travaillé en Chine, où j'étais contrôleur qualité, notamment. Et ce livre, je me suis rendu compte en réfléchissant que c'était sans doute une sorte de, pas d'exorcisme, mais c'est une réponse aussi à cette forêt.
Oui, c'est pas impossible. En plus, elle est quand même, ce décor, cette nuit dont je parle, elle est au milieu de forêts d'immeubles, elle est dans une petite, toute petite ceinture autour de Paris. Et c'est un décor, ce sont des endroits de ville un peu incertains, comme ça, pas loin de la forêt, d'une certaine manière, très différente, cette forêt-là, mais ce sont aussi des choses comme ça, très, très verticales, les forêts d'immeubles.
Oui. C'est vrai que c'est ma manière de quitter la forêt et c'est un environnement, une station-service. Qui se trouve au milieu de nulle part, qui est pourtant au centre du monde, on va sans doute y revenir, et qui est à côté, qui jouxte un échangeur, un périphérique, une maison inhabitée, des néons, un hangar, un HLM. Donc c'est vrai que l'environnement, cet environnement-là d'incertitude est essentiel à cette station-service.
Et il n'est pas très loin, finalement, de l'environnement d'incertitude des forêts, des Landes ou d'ailleurs, ou d'Asie. Alexandre Labruf, est-ce que vous aussi, vous croyez qu'il n'y a rien de plus important que la littérature ?
Oui, et que l'incertitude aussi. Ça, c'est Baudrillard qui le disait, mieux vaut la douceur de l'incertitude que la brutalité de l'évidence.
Oui, enfin, parfois, l'incertitude, c'est extrêmement brutal aussi. Hein.
Oui, mais c'est créateur de fiction. Sans incertitude, il n'y aurait pas de fiction. Donc, cette incertitude, cet environnement incertain, cette station-service qui flotte au milieu de ce paysage périurbain, oui, c'est le lieu de l'incertitude. Je voulais faire un lieu, en fait, d'un lieu plein de certitudes. Certitude de, voilà, de la consommation, certitude de la mobilité, le lieu de l'incertain, le lieu des possibles, le lieu des fantasmes, avec cette japonaise qui est très attachante.
Par conséquent, vous ouvrez plein de pistes possibles, plein de pistes narratives, on va le voir dans ce roman-là. Oui. Je voulais savoir dans quel état vous avez commencé à écrire.
Une fièvre totale. J'avais décidé d'arrêter d'écrire. C'était en 2017, je crois, et je suis parti au Cameroun pour travailler pour un festival de cinéma. C'était complètement chaotique, beau et chaotique. Et je suis rentré éreinté, épuisé, parce qu'on travaillait 23 heures sur 24. Et là, j'ai eu une fièvre, alors que j'avais décidé d'arrêter d'écrire. Je me disais, à quoi bon ? Ça fait quand même longtemps que je tourne autour du fragment, de cette volonté de raconter une histoire par fragment, mais finalement, à quoi bon ? Donc, je suis allé au Cameroun et ça m'a je sais pas si ça m'a guéri ou ça m'a fait replonger, en tout cas dans la littérature et dans l'écriture. Et j'ai écrit ce roman en 4 mois, nuit et jour, de décembre en février.
Et la fièvre vous a quitté à la fin ?
Elle est toujours là, la fièvre. Parce que je sais que beaucoup de romanciers se disent dépossédés de leur roman à la sortie. Mais moi, je suis complètement possédé, en fait, par mon roman, par mon histoire, par mes histoires. Parce que vous parliez de numérotation, de fragments. C'est vrai que c'est un roman écrit par des fragments. C'est numéroté par des chapitres qui peuvent être très courts. C'est une joyeuse pluie de confettis. Et porté aussi par beaucoup de nano-fiction. J'ai trouvé ce mot cet été en réfléchissant aussi. Plus je suis interrogé, plus je réfléchis bizarrement. Sinon, je réfléchis pas. Et nano-fiction, nano-récit. La station-service, c'est le récit principal, l'héroïne principale, avec l'humour, l'ironie, le sourire en coin, et qui sont portés, soutenus par l'ordinaire et l'infraordinaire de ce pompiste, qui est complètement déphasé et qui gère cette station-service de manière nonchalante. C'est la seule façon de gérer quelque chose, de manière la nonchalance.
Voilà une première bonne leçon pour une émission. Oui. Gérons les choses de manière nonchalante. Bon, comme ça, pour dire un peu comment il le gère en regardant la télé, il le gère en parlant un peu, en lisant des textos. C'est comme ça qu'il gère sa station-service.
En jouant aux dames aussi, avec ce jeu a priori ringard, mais qui est lui aussi essentiel et qui lutte contre la laborieuse futilité des échecs. Ça aussi, c'est une affirmation. Il joue aux dames, il regarde aussi le monde passé. C'est un monde qu'il ne comprend pas, ou qu'il ne comprend que trop bien. On ne sait pas trop. Lui se considère comme le dernier des humains, peut-être qui est échoué sur une terre, dans sa capsule, dans cette station-service, que comme un vaisseau spatial, dans une terre qui est peuplée d'étranges créatures. Mais finalement, c'est peut-être lui l'alien. On ne sait pas trop.
Et s'il gère nonchalamment, est-ce que vous diriez qu'il attend quelque chose ?
La fin du roman ? Est-ce qu'il attend quelque chose ? Non, il est en position contemplative. Parce que je crois que la contemplation, c'est aussi une forme de résistance. Et c'est la leçon aussi, une des leçons, pas du roman, mais je voulais travailler aussi la question de l'immobilité. Et là, je rebondis sur le livre de Sylvain Prudhomme, Par les routes, qui lui prône la mobilité comme seule forme de résistance au monde. Et c'est marrant parce que, enfin, une possible résistance au monde. Et moi, je voulais travailler l'immobilité comme une possible résistance au monde. Cette immobilité et cette nonchalance aussi à gérer les choses de manière, oui, c'est aussi un certain dilettantisme, en fait. Donc, de manière nonchalante, c'est aussi une possibilité de résistance au monde, avec cette ironie, avec ce regard décalé, avec ce regard déphasé, avec ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ses envies, ses fantasmes. Et cette observation un peu paranoïaque d'un monde qui tourne autour de lui, de cette station-service.
Est-ce que c'est possible d'écrire un peu de manière nonchalante?
En buvant? Beaucoup. Non, je... Tout est possible, je crois.
Oui, bien sûr.
Comme c'était la... dans cette station-service, tout est possible également. Mais c'est le lieu des possibles. Dans l'écriture, il n'y a pas de recette. Il y a... La mienne, c'était m'y mettre à 22h du soir et arrêter à 6h du matin avec un verre d'Armagnac. Beaucoup de discipline, un peu de nonchalance et un peu d'Armagnac. Et on nous, qui nous ramène aux Landes, l'Armagnac.
Dans le brouillard, comme un phare, à peine visible. Le néon horizon, bleu déglingué du hangar qui clignote devant moi. 2. C'est la nuit. Un client ivre, au comptoir, titube. Éructe. Où on va, merde? Où sont les poètes, putain? Que répondre? Que dire? Il a raison. Où sont passés les poètes? Deux clients qui cherchent leur bonheur au rayon fraîcheur lui jettent un coup d'œil suspicieux. L'homme hurle. « Barbara, reviens! Au secours !» Alors qu'ils étaient en train de saisir un sandwich au poulet, les deux autres clients se figent. L'homme ivre me paie son plein et sa bière, en marmonnant je ne sais quoi. Je l'observe partir. Via les écrans de vidéosurveillance, sa démarche de flamant rose claudiquant. Chuintement des portes automatiques, il zigzague jusqu'à sa voiture, qui se trouve à la pompe numéro 5. Le chiffre 5, en Chine, c'est le chiffre du wu, du rien, du vide. À l'origine et à la fin de toute chose. C'est le chiffre du non-agir, du non-être, du pompiste. Il démarre et part en trombe. Sa Land Rover disparaît dans la nuit américaine qui enveloppe la banlieue de Paris.
Nous voici rendus au numéro 3 de votre roman, Alexandre Labru, grâce à la lecture de Romain de Bec de Lièvre. Et dès le départ, cet homme qui ne sera vraiment jamais las de suivre les signes, de les relever dans le réel, de les attraper comme ça, comme des possibles pistes et routes à suivre, dès le départ, il nous parle de chiffres. Le 5, le chiffre du non-agir, le chiffre du pompiste. Vous qui avez numéroté la quasi-totalité des chapitres jusqu'à la fin, après, elles deviennent des lettres. Vous avez quoi comme rapport aux chiffres?
Un rapport autistique. D'ailleurs, je fais du compagnon de la sœur du pompiste un comptable et un ayatollah des chiffres. D'abord, un rapport peut-être très particulier aux chiffres, mais un amour inconsidéré des chiffres aussi. Je crois que je suis... J'ai écrit sur Excel mon roman. Et
Peut-être pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, ou bien parce qu'ils sont trop jeunes, ou bien parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, qu'ils sont trop vieux. Excel, c'est un tableur. Ça sert à faire ou bien des tableaux, ou alors, quand on se débrouille mieux, à faire des calculs.
Oui, et sur la base d'un algorithme. Donc mon roman est un algorithme, en fait. Ça, il faut surtout pas le dire à mon éditeur, parce que ça va, il va s'arracher les cheveux. J'adore les chiffres, j'adore les mots. Je voulais les réunir ensemble, et aussi je déteste les chiffres. Je déteste les chiffres et ce qu'ils peuvent nous imposer. D'ailleurs, dans ce roman, il n'y a pas le prix de l'essence n'apparaît jamais.
Non, mais par contre, le nombre de litres, oui.
Le nombre de litres, oui. Le Coca Zéro, non. Ou d'essence, oui, oui. Il y a 450 000 litres. C'est le chiffre qui caractérise notre pompiste qui a vendu donc 2861 barils, exactement. Et si on revient sur la structure, j'ai numéroté le roman et surtout les chapitres. J'avais deux ambitions. Je voulais sortir du magma du récit. J'ai longtemps développé une allergie, beaucoup d'allergies. J'ai beaucoup d'allergies. Et une de mes premières allergies, c'est au format long du roman et au format classique du roman. Damasio m'a réconcilié un petit peu avec, Olivier Rosenthal aussi. Mais là, et du coup, je voulais vraiment faire éclater la phrase, faire des bulles de mots, de phrases, des bulles poétiques, de poésie, d'ironie, d'aphorisme. Et c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai numéroté ce roman. Après aussi, je voulais partir du principe d'un faux scénario. Parce que tout est faux dans ce roman. Même ce sujet qui est faussement pas sérieux. Donc voilà à peu près mon ambition.
Mais vous voyez aussi cette idée de aimer les chiffres et les détester, c'est leur donner de l'importance, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que combien même on les aime beaucoup ou alors on les aime pas du tout, on les trouve importants. Et en fait, cet homme-là, c'est sa manière de regarder le monde. Il contemple, mais il trouve les choses importantes. Il les relève. C'est ça qui est intéressant. Il relève les choses dans le monde, votre pompiste.
Il extrait la poésie du monde. Et la poésie ou la brutalité ou la brutale poésie du monde et du contemporain, en fait, de son obsolescence programmée. Et c'est vrai que les chiffres, je jongle avec. D'ailleurs, au lecteur, je donne une piste, et c'est une exclusivité. Il en manquait un chiffre.
Oh, mais quelle piètre lectrice j'y étais. Vous voulez dire que vous en sautez un, quoi, et qu'on s'en est pas rendu compte.
Tout à fait.
Ça veut dire qu'il y a un chapitre perdu ?
Oui, un chapitre perdu. À dessein.
Et il est où dans une clé USB piquée par un SDF?
Voilà, c'est cette fameuse clé USB qu'il donne en croyant donner de la monnaie, en fait. Il y a des pièces, il donne une clé USB à un SDF. Et dans cette clé USB, effectivement, il y a ce fameux chapitre.
Voilà. Alors vous dites, j'adore les chiffres, je les déteste, j'aime autant les mots, je voulais les mettre ensemble. Donc quand vous avez commencé d'écrire, vous détestiez les mots, vous ne vouliez plus du tout. C'était fini.
J'avais décidé d'être sérieux. Non, mais je cherchais. Ça fait ce roman est la somme de mes échecs. C'est pas l'aboutissement, c'est la somme de mes échecs. J'ai longtemps tourné autour de cette forme fragmentaire, parce que c'est vraiment la particularité de roman, la singularité. On aime, on déteste, on adore pas. Mais c'est vrai que j'avais l'obsession de raconter une histoire par fragments et faire de l'hélice. De mon roman, en fait, et du récit. Sortir de l'intrigue, sortir des justifications imposées par le roman. Je m'étais imposé cette souffrance quand j'avais commencé à écrire à 7 ans. Non, ça je blague. J'ai commencé à écrire plus tard, quand je suis sorti de la forêt. J'ai tourné autour de ce fragment et je me suis dit, tant pis, j'y arrive pas. Et finalement, cette fièvre m'a habité pendant 4 mois au retour du Cameroun. Et c'est grâce au Cameroun que j'ai sans doute, et c'est très étrange, que j'ai eu cette fièvre de chiffres et de mots, en fait. Et tout s'est agencé.
Ça vous permettait de plus rien justifier, quoi. Que tout puisse arriver.
Oui, parce que l'intrigue, on doit aller d'un point A à un point Z, en passant par le B, par le point C, le C. Donc et on doit justifier, par exemple, c'est très vrai dans une série, un roman policier, c'est une équation. Alors moi, c'est une équation déstructurée, c'est une équation déjantée, mon livre, c'est un algorithme, et je plaisante, c'est pas un algorithme, mais si c'est un algorithme, il est complètement déstructuré, il est complètement fou, et pourquoi pas. Mais je voulais sortir de la justification qu'impose une histoire, Et oui, on peut sauter des passages. Oui, on peut sauter. On peut ne pas tout justifier. Et aussi, ce qui est important, ce qui peut être important, c'est ce qu'on n'écrit pas aussi. Ça, c'est peut-être mon tropisme chinois. Il y a ce qui sous-tend ce roman et ce qu'il soutient, c'est aussi ce qui n'est pas dans le livre. Non seulement ce que j'ai supprimé, mais aussi ce que j'entends, en fait, par certains mots ou par certaines absences, comme ce fameux chapitre qui manque.
Il y a une phrase qui ouvre le roman, une phrase en exergue, elle est signée Baudrillard. L'essence est née de l'érosion des mots.
Le pétrole, c'est une matière qui n'est pas seulement une source d'énergie, c'est une matière un peu comme en rêvaient les alchimistes du Moyen-Âge, une source de mouvement perpétuel, un envoûtement, un filtre d'amour. Il y a une histoire passion entre le pétrole et l'humanité. Le pétrole nous permet de bouger, nous permet de communiquer, nous permet d'échanger. C'est aussi le pétrole qui nous a donné l'image de la Terre. C'est grâce au pétrole qu'on s'est arraché à l'attraction terrestre et qu'on a pu voir que la Terre était effectivement bleue, effectivement ronde. C'est le pétrole qui nous a donné ça. Donc le pétrole, ça n'est pas seulement ce qu'on met tous les jours dans notre réservoir de voiture d'un air blasé. C'est un peu l'inconscient, le non-dit de nos sociétés jusqu'au jour où il fait défaut. Le pétrole est évidemment le symbole des hydrocarbures, c'est-à-dire de toutes ces matières très, très obscures qui sont un peu freudiennes, un peu inconscientes, qui sommeillent et qu'on va chercher à coup de sacrifices, à coup de forage, très, très loin. Et ce sont des sacrifices terribles qu'on saccage évidemment la terre à cette fin.
Vous parliez, Alexandre Labreuve, de l'importance des non-dits. Ici, c'est le romancier Dalibor Friou qui, en 2011, à la sortie de son livre Brut, parle du pétrole comme presque le retour du refoulé, quoi. L'espèce de chose inconsciente qui serait le moteur d'un monde contemporain. Quand vous citez Baudrillard en exergue en disant que l'essence est née de l'érosion des mots, et quand tout au long de votre texte vous parlez de cette odeur qui colle à la peau, y compris quand votre pompiste quitte sa station-service, on se dit en effet que c'est un sujet plus que mécanique.
Ben, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au tout début. Sujet faussement pas sérieux. Quel est cet écrivain qui écrit sur une station-service, sur un pompiste tout déphasé, sur l'immobilité d'un pompiste et de ce qu'il contemple? Et c'est vrai que la station-service, c'est d'abord le lieu de notre amnésie. Le lieu de l'amnésie du monde et aussi de l'amnésie de nous. En tant que citoyen, le lieu de l'inconscience aussi, le lieu de notre inconscience et
pourquoi ?
Le lieu de notre toxicomanie. Non seulement on consomme de l'essence, sans s'en rendre compte, d'un air blasé, comme dit Dalibor, et sans se rendre compte des saccages, effectivement. Alors, le pétrole nous a libérés, et en même temps, il nous enferme. Donc, pourquoi le lieu de la toxicomanie à l'essence ? Donc, ça nous, et aussi toxicomanie à notre société, qui prône la consommation à tout va. Et c'est vrai que la station-service, j'en ai fait aussi le lieu de la junk food, et notre pompiste, lui, se considère comme le principal dealer d'un monde voilà, qui tourne en rond.
Pourquoi l'amnésie ? Pourquoi c'est le lieu de l'amnésie ?
Parce qu'on ne s'en rend plus compte. L'amnésie... C'est ce que j'essayais de définir, quel était le pétrole, était le nectar de quoi en fait? Et c'est le nectar d'une amnésie, l'amnésie de la consommation. D'ailleurs Baudrillard le dit, la consommation est liée non seulement à la destruction de la planète, mais aussi à l'amnésie, c'est-à-dire à l'inconscience. On ne se rend plus compte de... c'est un geste qui est devenu automatique. Pour plaisanter au G7 littéraire, au prix Maison Rouge, je disais qu'une autre fin du monde est possible. C'était mon slogan quand j'avais été interrogé là-bas. Une autre fin du monde est possible. On court tout droit vers la catastrophe, mais on peut y courir joyeusement. Pourquoi amnésie ? On est amnésie à cette course effrénée vers cette catastrophe. Là, ma station-service, elle est lieu d'avant l'apocalypse, d'avant la catastrophe. C'est le non-dit de notre société, Dalibor le disait aussi, mais c'est le non-dit, c'est le non-dit, je voulais faire d'un non-lieu, un non-dit, et d'un non-dit, un dit, voilà.
Pendant les 4 mois de la fièvre de votre écriture, Alexandre Labruf, vous suiviez un petit peu l'actualité, le mouvement des Gilets jaunes et cette révolte liée à l'augmentation du prix de l'essence?
Je l'ai écrit avant les Gilets jaunes, je l'ai écrit en 2017. Donc j'étais pas le précurseur, mais je voulais vraiment faire de la station-service, c'était mon objectif premier, le centre du monde. Alors qu'elle est placée au milieu de nulle part, la périphérie, je voulais aussi réenchanter et dire que la périphérie peut être le lieu de la poésie, le lieu des possibles, le lieu du lien retissé. C'est ce que je fais avec cette station-service. Je pervertis son usage, je pervertis sa fonction, je pervertis tout, je subvertis même tout, et j'en fais le lieu des possibles, le lieu de l'humanité retrouvée. Je plaisante à moitié en disant ça, parce que ça fait très prétentieux.
Mais non, mais vous devriez pas, parce que vous y croyez gourmand quand même.
Oui. Et du coup, je pensais à ça. Je pensais que le centre du monde, faire de cette station-service un centre du monde, ou le centre du monde, mon centre du monde, pendant 4 mois, c'était possible, parce que c'était le lieu où tous les enjeux se croisaient. L'essence, le pétrole, la lobotomobilisation, la coca-zéroisation du monde, ou de l'humanité.
Oui, mais aussi l'amour, la littérature, le hasard, l'aventure, le pari, la mythologie, la lumière.
Oui. Et ça, c'est possible encore. Il existe encore des stations-service, notamment dans les Landes, où ce lien dans les stations-service existe. On y boit, on y mange, on y parle, on y débat, on s'y rencontre aussi, on s'y bat. Et je ne le savais pas. Je l'ai découvert après parce que j'ai fait un retour dans les Landes après l'écriture de ce livre. J'ai découvert une station-service où c'était possible. Je suppose qu'en Auvergne ou dans le Nord-Pas-de-Calais ou alors même dans le Sud. Ces stations-service existent. Mais au départ, à la base, elles sont destinées à une consommation frénétique, effrénée, de l'essence, mais aussi de tous les produits dont on vante. C'est pas forcément le lieu de l'humain, c'est le lieu de la transparence, c'est le lieu de la mobilité. Je voulais aussi mettre en rapport l'immobilité, la mobilité, les flux et l'immobilité aussi, en fait. Je voulais opposer ce monde. Je dis que c'est un non-lieu, la station-service, mais en fait, non, c'est le lieu de la mondialisation et c'est le rouage essentiel de la mondialisation. C'est vrai que sans le lieu donc de la mobilité, notre pompiste le dit, sans moi, la mondialisation n'est rien. Donc c'était mon but, avant même les Gilets jaunes et avant même que dans certains pays, parce que non seulement le prix de l'essence est un drame en fait, l'augmentation devient un drame en France, mais aussi en ce moment en Équateur, donc... Cette question de l'essence et de la consommation m'agite en fait, comme pour Baudrillard.
Ce qui n'a plus de scène tombe dans l'obscène à ce moment-là, tombe dans une espèce de transparence absolue, une espèce d'extraversion comme ça, où il n'y a plus de secret, quoi. Il n'y a plus, tout devient visible, tout devient hyper visible, trop visible, et c'est ça que j'appelle donc l'obscénité. Et cette obscénité-là, bien sûr, elle était celle aussi du social, de l'information, etc., là où tout se trouve extraverti de force, enfin, où il y a une espèce de sollicitation de force à tout dire, à être partout, à répondre, à interroger, enfin bon, quelque chose qui, mon avis, n'est pas seulement un jeu de mots entre la scène et l'obscène. Là où il y a une scène de l'histoire, une scène du sujet, une scène du social, une scène du politique, les choses ont encore une règle du jeu. Il y a encore des acteurs, il y a encore une espèce de mode d'emploi. Puis il y a une façon encore de se produire, de séduire aussi, qui donne un certain charme et en même temps un sens aux choses. À partir du moment où cette scène se disloque, dans cette espèce d'extraversion, de prolifération et tout, on est dans l'obscène, c'est-à-dire dans le grossissement artificiel de tout. Hein. L'obscénité en termes de pornographie, par exemple, serait ce gros plan organique, orgasmique, qui au fond n'a plus rien à voir même avec la sexualité, qui est une hyper-visibilité de la chose en l'absence de secret ou de sens. Alors cette obscénité-là, donc, vaut pour tous nos dispositifs, bien sûr.
J'aurais aimé être Baudrillard, être au-dessus de tout. Mais d'énervement, je renverse le plateau de dames. 28. J'aurais tant aimé être Baudrillard, courir nu dans les champs. 28 bis. Dire, tout le monde demande le plein, mais personne n'a jamais demandé le vide. 41. J'aurais aimé être Baudrillard et pouvoir dire à mes disciples, les doigts joints, la télévision ne connaît pas la nuit, elle est le jour perpétuel. 77. J'aurais aimé être Baudrillard et pouvoir lui lancer « La Subaru est aux prêtres, ce que les barésies sont aux nonnes. » 127. J'aurais aimé être Baudrillard et pouvoir leur balancer « Dans la pornographie du mariage, s'est perdue l'illusion du désir. »
'France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Alexandre Labruche.
On s'est permis de complètement faire exploser l'algorithme de votre livre, Alexandre Labruche, et de piocher au hasard tous les endroits où votre pompiste regrette de n'être pas Baudrillard ou au contraire profite de son rêve de l'avoir un jour été dans une vie antérieure pour écrire des aphorismes. Qu'est-ce qui vous a apporté Jean Baudrillard puisqu'il est à la fois en exergue et si présent dans ce texte-là ?
Alors, je vais répondre à côté de la plaque.
Mais allons-y.
Il faudra pas... moi, je suis amnésique aussi, donc il faudra me taper sur les doigts et me ramener à la question de départ.
Mais
je
suis au départ... Ne comptez pas sur moi, en tout cas.
D'accord. Bon, tant mieux. En fait, je suis parti de Pérec. Je suis pas parti de Baudrillard, je suis parti de Pérec. Et d'une volonté, d'une obsession de d'épuiser un lieu. D'épuiser un non-lieu. Alors j'avais essayé avec une rue coréenne que j'avais traversée pendant 2 ans et je me suis dit, mais tiens, c'est il manque quelque chose, il manque la fiction. Et j'ai relu et relu tentative d'épuisement d'un lieu parisien de Pérec. J'ai relu tout Pérec et je me suis dit, mais non, il manque quelque chose. Et c'était la fiction qui manquait. Donc je suis parti de Pérec. Ensuite, j'ai pris un mixeur, j'ai mis Pérec, Baudrillard, San Antonio. Et Bataille, je les ai mixés ensemble. Et je dis ça hyper sérieusement. Mais je suis parti d'abord de cette obsession d'épuiser un lieu, un non-lieu, un non-dit, pour ensuite en arriver à Baudrillard. Mais Baudrillard, c'est mon icône absolue. D'ailleurs, il m'est arrivé une histoire incroyable avant-hier, grâce à vous. Et j'en dirai peut-être plus.
Voilà, on vous laisse surtout pas le choix, en fait.
j'ai quand même tout changé pour changer mon emploi du temps, pour que notre rencontre soit possible. Et merci pour l'invitation, d'ailleurs.
Je pense que toutes nos auditrices et tous nos auditeurs vous remercient.
Et en changeant mon emploi du temps, j'ai été contacté, j'ai rendu possible une autre rencontre qui était complètement improbable, avec un mail qui arrive sur la boîte e-mail de mes éditeurs, d'une certaine Marine, déjà, et avec un ton très très enfantin, très déjanté, très déstructuré, qui m'invite au kiosque débouliste au jardin du Luxembourg à midi, alors qu'il est pour un pique-nique, alors qu'il allait pleuvoir.
N'y allait tellement pas.
Non, mais c'était hier. Et je me suis dit, là, il faut que j'y aille avec un garde du corps. Est-ce que c'est un écrivain qui m'en veut? Est-ce que c'est, je sais pas, une lectrice, mon frère, je sais pas qui ça pouvait être. Et je me suis souvenu que lors d'un colloque Baudrillard cet été qui avait lieu à Cerisy, j'avais rencontré Jean-Baptiste Toré, qui était mon sauveur sur le coup, qui est un critique de cinéma et aussi un cinéaste et un réalisateur maintenant. Et je l'ai appelé et je lui ai dit, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que ça peut être Marine Baudrillard qui m'écrit comme ça? Et en plus, j'avais envoyé un texto. Et elle m'a répondu avec des yeah, des choses très, très inattendues. Donc, Jean-Baptiste Torré m'a donné la clé de cette énigme, puisque la vie est une énigme.
Parfois, c'est ce que je veux dire, votre vie est toujours comme ça?
Souvent, bizarre, oui. Et la réalité, parfois, plus forte que la fiction, un lecteur d'ailleurs me reprochait d'être irréaliste pour l'arrestation. Il y a une arrestation dans mon roman, mince, je spoil, je divulgue. Bon, il y a une arrestation, et en fait, cette scène, je l'ai vécue. Moi, je ne fais que détourner, que piller la réalité que je vis, que vous vivez, ou que mes amis vivent. À leur plus grand regret, ils se retrouvent dans mon roman parfois, mais de manière détournée. Du coup, j'ai ce rendez-vous complètement improbable, je n'y crois pas, j'appelle donc ce réalisateur qui me confirme que c'est possible que ça soit Marine Baudrillard. Et Marine Baudrillard, du coup, je lui ai donné rendez-vous alors, juste avant votre émission.
Et donc ?
Et donc, on a fait connaissance, elle a lu mon livre, je ne sais pas comment, et elle a adoré, donc c'était une rencontre et on a parlé de Jean. On était donc au Select et elle m'a donné la place de Jean Baudrillard en me montrant sa vue.
Café parisien.
Ouais, café parisien à côté de Montparnasse et c'était le lieu de la French Theory et c'est surtout le lieu de Baudrillard. Donc c'est complètement incroyable. Oui, ça. Il y a d'autres histoires, mais là, je veux pas des nanorécits qui m'arrivent et qui me rendent un peu paranoïaque. Donc j'hésitais à y aller avec un garde du corps et finalement j'y suis allé seul et ça s'est bien passé. Et j'ai adoré cette rencontre. Et j'ai aussi appris, mais ça c'était au colloque auquel j'ai assisté cet été, donc sur Baudrillard à Cerisy, qui est un endroit pas perdu mais magnifique, pas très loin de la Manche. Pas très loin de Caen, que Baudrillard était pataphysicien. Baudrillard est dadaïste. Et d'ailleurs, quand l'exergue dit « l'essence est née de l'érosion des mots », je suis pataphysicien à mon tour. Quand Baudrillard, je lui fais dire dans la pornographie du mariage, j'ai perdu l'illusion du désir, ou alors la télévision n'est qu'un jour perpétuel, je suis pataphysicien. Est-ce que c'est Baudrillard qui le dit? Voilà ce que je joue.
Bon, on s'en fiche en fait, non? Je sais pas.
Oui, après je voulais rendre hommage aussi à Jean Baudrillard et c'est aussi mon clin d'œil. Et avec joie, j'ai appris avec Marine Baudrillard qu'il était joueur et qu'il était aussi très, très ironique. On lui a reproché d'être nihiliste. Non, il voyait la vie avec une grande ironie et une certaine aussi tendresse en fait. Donc je voulais lui rendre hommage.
Et beaucoup d'humour parce que finalement il y a évidemment de l'ironie. Humour et humanité parce que c'est aussi un regard sur le monde qui l'entoure. Jean Baudrillard, c'est une manière d'attraper par la bande, par la traverse et de penser le monde à partir par exemple d'une station-service. Donc vous disiez que dans le mixeur vous aviez mis Pérec, ok, Jean Baudrillard, San Antonio.
Oui, et Bataille.
Et Bataille.
Ouais, Bataille, que j'ai redécouvert, parce qu'on ne lit pas Bataille quand on est jeune. Bizarrement, on nous oriente vers Stendhal ou Flaubert ou Zola.
J'imagine que ça dépend qui, mais...
Oui, à Bordeaux, en tout cas, où j'étais, dans les Landes. On n'oriente pas vers Bataille. Mais du coup, oui, j'ai mis tous ces auteurs. Mais j'avais aussi une autre obsession, c'est d'interpréter Amérique. Baudrillard a fait un texte magnifique sur les États-Unis qui s'appelle Amérique et c'est une suite de fulgurances qui est encore actuelle, qui est encore hyper moderne et qu'il a écrit il y a bien longtemps et je me demandais est-ce que je peux faire ce roman qui s'appellerait France mais avec à la manière de Baudrillard et est-ce que je pourrais prendre aussi moi aussi la lorgnette ou des jumelles avec et regarder le monde à travers ces jumelles et à partir d'un lieu ou d'un non-lieu ou alors d'un objet et finalement je suis arrivé à cette station-service. Et c'est avec cette station-service que je regarde, ou que mon pompiste regarde le monde avec ses jumelles.
Il regarde le monde ou la France,
alors ? Les deux. Mais c'est vrai que l'obsession... Amérique est mon livre de chevet, en fait. Je l'ai parfois même sur moi. Il me protège, il me guide. Et je voulais le transformer, l'interpréter. Je me demandais comment on pouvait raconter la même histoire sur la France, d'abord. Après, effectivement, c'est un livre qui parle aussi du monde. Et j'ai introduit l'Asie.
Et San Antonio ?
San Antonio, je crois que c'est le plus grand écrivain de tous les temps. Et il a, malheureusement, il n'a pas eu le prix Nobel, je crois, mais c'est un grand drame pour moi. Alors, mais sérieusement, mon père avait une bibliothèque que j'ai épuisée dans les Landes. On va croire que je suis obsédé. Mais par la forêt, peut-être. Il y avait une bibliothèque, il y avait des livres de science-fiction. Donc, il y a aussi beaucoup de science-fiction dans ce livre. Mais la science-fiction, la principale histoire de science-fiction, c'est finalement cette histoire d'amour avec cette japonaise, cette histoire d'amour improbable. Mais donc j'ai lu tous ces livres de science-fiction. Il avait aussi une collection impressionnante de San Antonio que j'ai découvert. Et il travaille la langue, il jongle avec la langue, il torture la langue. Et c'est ce qu'un peu d'ailleurs, c'est ce que je voulais faire. Et j'ai retrouvé avec joie aussi dans la langue damasienne ou de Damasio cette volonté de tordre la langue, non seulement le réel, mais aussi la langue. De la distordre, de jouer avec, de jongler. Alors moi, j'ai juste un petit peu essoré.
Pendant tout ça, il regarde souvent Mad Max sur une télévision qu'on imagine un peu plus petite que son écran de contrôle du reste, peut-être pour être discrète. En tout cas, c'est comme ça que je me la suis figurée, Alexandre Labruf. Régine Deforge avait vu Mad Max aussi, en 1980, elle nous raconte.
Écoutez, je suis agréablement surpris. Je trouve que la sélection est bien meilleure que celle de ces deux dernières années. Les autres années, je ne venais pas. Bien meilleure que celle de ces deux dernières années. Je n'ai pas encore vu un film. D'abord, j'ai pas eu peur. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Le cinéma de fantastique et d'épouvante, on s'attend vraiment à avoir peur. Je n'ai pas encore eu peur. J'ai vu un film qui m'a semblé étonnant, dans ce sens qu'il annonce, je pense, des temps à venir. C'est Mad Max, un film australien assez terrifiant. Très, très discuté. Je ne le trouve pas parfait, loin de là. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. Mais dans l'histoire qui nous est racontée, les personnages qui sont mis en présence, c'est-à-dire des super flics et des super voyous, pas des truands, des voyous, soit petits voyous qui cassent pour le plaisir de casser, ça me semble, hélas, sinon l'avenir des grandes métropoles ou des pays un petit peu en voie d'un super développement comme l'Australie, le Canada, avec des grands espaces, ça me semble malheureusement, non pas inévitable, mais possible.
On y revient au possible, Alexandre Labruf, donc Régine Deforge, parlant de Mad Max. Mad Max qui est là comme une sorte de toile de fond cinématographique avec d'autres choses, évidemment, avec des livres qui circulent, des codes secrets, des messages secrets, des petits bouts d'une biographie de Fitzgerald. Mais Mad Max quand même comme une forme matricielle, une sorte de toile de fond. Pourquoi ? Juste pour les voitures ?
Je reviens d'abord et je reviendrai à votre question. Baudrillard disait on avait l'obsession de tout dire. C'est obscène, c'est ce qui est obscène, l'obsession de tout dire.
Dans l'archive qu'on a diffusé, oui.
Ouais, dans l'archive que vous avez diffusé. Et effectivement, il disait aussi quelque chose de très fort. C'est le monde nous a été donné, inintelligible et mystérieux, et la tâche de la pensée, plutôt travesti, la tâche de l'écrivain, c'est de le rendre encore plus inintelligible et encore plus mystérieux.
À l'inverse d'une tâche sociétale qui serait la transparence et l'hyperlisibilité.
Ouais, la rationalisation contre laquelle lutte, l'air de rien, notre petit pompiste, notre grand pompiste. Et la station-service porte en elle donc les germes du mystère. Je la réenchante avec le mystère, mais j'ai pas besoin de la réenchanter puisque dans certains lieux elle est déjà enchantée, cette station-service. La station-service porte en elle les germes de la fin du monde. Mad Max, alors je voulais, premièrement, c'est me torturer.
Chacun ses plaisirs.
Revoir ce film, revoir, en extraire vraiment la quintessence philosophique. Parce qu'il y a même un livre qui s'appelle L'Apocalypse, qui est basé sur Mad Max, et qui s'appelle L'Apocalypse sera motorisé. Et donc c'est l'analyse très sérieuse de ce que dit Mad Max, de ce que ne dit pas Mad Max. Donc elle porte, la station-service porte en elle les germes de la fin du monde, et cette fin du monde qui arrive, qui est là. Elle arrive demain. Dans 150 ans, il n'y a plus de pétrole. Et tout le monde l'oublie. On revient à cette amnésie, en fait. On est inconscient de cet apocalypse. Donc oui, Mad Max, je voulais m'amuser aussi avec les codes du cinéma. Mais c'est pas forcément du cinéma de série B, Mad Max. C'est un cinéma majeur. Puisqu'on sort du nouvel Hollywood. C'était le premier Mad Max en 1979, le deuxième fois en 80, ensuite 85. Et ça dit effectivement quelque chose. C'est très visionnaire. C'est un film qui annonce un monde sauvage. Un monde sauvage et un monde donc sans pétrole. Moi, je voulais pas annoncer un monde sauvage. Je voulais vraiment annoncer qu'une autre fin du monde était, avec ce roman, était possible. On peut être, on pourra être même, on pourra danser quand il n'y aura plus pétrole. Mad Max aussi donc un écho de mon, c'est l'écho de cette fin du monde. C'est pour ça qu'il la regarde en boucle et en boucle. Peut-être que c'est pas son cauchemar, c'est peut-être un rêve, ou peut-être une inquiétude ou une curiosité en tout cas, la curiosité de la fin du monde, de ce que ça annonce. Et c'est aussi au regard de tous les autres films qu'il regarde. Parce qu'il est complètement dissonant culturellement. Il regarde Godard, il regarde aussi des films japonais de science-fiction, des films d'horreur de science-fiction, avec, ça peut être Godzilla, ou alors cette histoire de Martien. Il peut lire Fitzgerald, mais il peut lire San Antonio. Je voulais aussi parler de cette dissonance qui moi, m'est constitutive, mais aussi qui est constitutif de beaucoup de personnes. J'ai fait des enquêtes de consommation quand j'étais étudiant, et toujours on essayait de nous classer, en fait, de nous classifier en fonction de nos goûts. Non, je suis désolé, je peux aimer une marque et une autre marque, et je peux aimer San Antonio, et adorer San Antonio, vénérer San Antonio, et vénérer Baudrillard aussi. Et voilà, c'est comme Mad Max, je crois que ça, c'est aussi pas un horizon indépassable ou ineffable, mais c'est aussi un horizon possible.
J'ai plaqué mon job à la station service, c'était plus supportable. Les filles qui montraient leurs cuisses, rien que par vis dans le décapotable. Elles me crachaient un billet de mille en me demandant de vérifier l'huile. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. Le jour où le vice-président du conseil est mort à l'arrière de sa DS, j'ai donné un coup sur les vitres fumées. Elle m'a filé 100 000 lire en me demandant de ne jamais rien dire. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. J'ai plaqué mon job à la station service, je suis plus rentré chez moi. Je crois pas que ça l'ait rendu triste. Nous deux ça collait pas. Regardez-moi, j'ai plus de laisse. J'suis comme un pape au volant de ma caisse. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus personne pour me faire du mal. Aujourd'hui j'ai plus les mains sales. J'ai plus mon verre du mal.
B. J'avale la route. Je crois que je pourrais faire ça toute ma vie. Rouler toute la vie. Cela me rappelle un livre. Une uchronie. Mais je ne sais plus lequel. Je me dis que routier pourrait être mon nouveau métier. Ma nouvelle amnésie. De ma station immobile, je passerai à l'état nomade. F. Je fais le plein. C'est de l'ordinaire. Chose de plus en plus rare. Mais je sais où le trouver en France. Je connais le secret de l'ordinaire. I. Il n'y a personne dans la station. Je suis seul. Je suis bien. Je n'ai jamais été aussi bien. Il est 3h du matin. À regret, je constate que le réservoir est plein. Je dois raccrocher le pistolet, payer, partir, continuer de rouler, consoler mon père, accessoirement lui prêter mon chéquier. Un café instantané à la main, la touillette à la bouche, les cheveux glacés par l'air conditionné, guilleret, je vais à la caisse. Je paie. Devant moi, une pompiste rayonnante avec son uniforme blanc rétro-futuriste, cheveux ébouriffés. Alors que je suis sur le point de lui tourner le dos, elle me dit, me le dit-elle, dans un grand sourire qui m'aspire, est-ce un flingue qu'elle pointe sur moi ? Vous m'emmenez ?
Alexandre Labruf, on va pas dire où ça se situe dans votre roman, d'accord ?
Non, mais c'est une histoire qui m'est arrivée. Donc je n'ai fait que détourner le réel. On revient à cette histoire de réel, non, c'est pas du tout réaliste. Cette pompiste m'a demandé, alors je venais de faire le plein, vous m'emmenez. Et j'ai éclaté de rire, j'ai dit je vais nulle part, donc je crois pas que ça vous intéresse. Elle m'a dit on ne sait jamais. Donc, on va pas dire où ça se situe, non.
On va pas dire où ça se situe, mais ce qui est intéressant, c'est que on l'entendait dans la lecture que vient de faire Romain de Becdelière, il y a un changement. Il y a un changement très fort.
Une rupture, l'appel de la forêt peut-être.
Ouais, vraiment.
Oui.
Comme si ça augurait, je sais pas, un prochain film, un prochain livre, quelque chose qui commence.
Une suite,
ouais.
Peut-être, oui. Depuis très longtemps, je suis obsédé par la forme, mais aussi par l'inachèvement des histoires. Il fallait surtout pas que j'achève cette histoire. Comme toutes les nano-récits, comme cette histoire de Clive SB qu'il a perdu, comme cette histoire de livre avec des messages codés qu'on lui laisse, ou alors cette maison inhabitée, est-elle vraiment inhabitée ? Je voulais surtout ne pas les achever, laisser le mystère nous envelopper, vous envelopper, envelopper ce pompiste, et laisser le champ des possibles... flotter devant lui, et c'est comme son horizon, et là c'est vraiment un horizon en fait, ne pas achever les histoires, et c'est peut-être Kafka et tous ces romans inachevés m'ont marqué. D'ailleurs j'ai oublié un auteur
dans le Shaker,
ouais, c'est Ponge, évidemment c'est Ponge, le poète des objets. Et qui prend un objet, qui l'essore et qui, non seulement son sens, mais aussi le récit de cet objet, ce qu'il nous dit, le galet, la crevette, la langouste.
Ça veut dire que le mec bourré au début du roman dont on entendait qu'il réclamait la réapparition des poètes, c'est aussi un petit peu vous alors, Alexandre Labruf?
Alors ça, c'est un SDF qui a barré la route. Je me promenais dans le 10e arrondissement, au canal Saint-Martin. Il s'est mis au milieu de la route. Et il a crié, il a gueulé. Non, où sont les poètes, putain ? Barbara revient. Donc ce n'est pas moi. Moi je ne suis que le greffier, pas du suicide de l'humanité, mais le greffier d'une certaine réalité. En tout cas, la réalité qui m'intéresse et que je peux transformer, travestir, mettre dans mes romans.
Vous disiez tout à l'heure que vous étiez complètement habité par ce roman, qu'à la différence des auteurs ou des autrices qui s'en disent dépossédés, vous étiez possédé par lui.
Je plaisantais à moitié.
Ah mais bon, mais ouais. Vous savez, mais je suis tellement premier degré.
Ah oui, c'est vrai que le second degré, c'est aussi...
Ah non, j'adore aussi. Hein.
L'infusion de ce roman, c'est une infusion au second degré. Mais mon roman est politique parce qu'il est cynique. Et il faut revenir.
Ah mais je suis tellement pas d'accord.
Ouais, je sais. Mais il faut revenir au premier terme du mot cynisme, à l'origine de ce terme. L'origine de ce terme, c'est les cyniques, c'est Diogène, qu'il veut sortir des conventions, les briser. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aboyer comme un chien. Il va aboyer pour créer du désordre. Pour vivre dans le désordre. C'est dans ce sens-là, pas dans le sens du cynisme capitaliste. Je crois que le sens du cynisme a été dévoyé, en fait.
Ah oui, ben moi, c'est là où j'ai été perdu.
Mon roman est politique parce qu'il est ironique. Et parce qu'effectivement, le second degré l'habite. S'il y a quelque chose qui m'habite, c'est plus le second degré. Mon roman, là, je plaisantais, c'est une réponse, un clin d'œil à une de mes confrères.
Merci. Oui. Bon, non, allez-y.
Non, je voulais dire aussi que c'était le roman de la novlangue. Je suis fasciné par la novlangue qui nous en sert, en fait, la novlangue du quotidien. C'est-à-dire, c'est pas la septième fonction du langage, mais c'est la fonction fatigue du langage, où on ne dit rien, enfin, ça va, oui, ça va. Donc ça, c'est la novlangue du quotidien, mais aussi la novlangue du capitalisme, des formations, de l'industrie. Et je voulais aussi la réenchanter et en extraire, parce que les usagers de cette station-service viennent y consommer ou viennent y prendre de l'essence, mais ils disent quelque chose. Et je voulais extraire, donc c'est des mots parfois que je sors de leur contexte et pour en extraire la quintessence poétique, voilà, la poésie et l'ironie.
Manière de les prendre très au sérieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le pompiste ou vous, ou qui a écrit ce livre avec vous, tous les fantômes là, eh ben vous les ils prennent au sérieux le langage.
Et d'ailleurs. C'est aussi avec quand je disais que j'étais possédé par ce roman, et là je reviens, c'est aussi tous les fantômes en fait. Avec ce roman, tous les fantômes sont revenus de mon passé en fait, ou reviennent, et c'est très marrant, et c'est très nourrissant.
À suivre alors.
À suivre.
Merci beaucoup.
Merci,
Alexandre
Marie.
Labruf.
Merci Romain.
Chronique d'une station-service est paru chez Vertical.
Il arrive, oui, que des fois, dans un genre de coup de foudre, c'est vrai, on fasse connaissance avec des gens se rappellent, mais les trois quarts sont pressés. C'est vrai, les gens sont pressés. On nous demande d'aller vite et puis d'être bref. Voilà, c'est tout, simplement. La route qui défile et puis l'Espagne. Les gens n'entendent pas, ils n'ont pas le temps d'entendre. Ils n'ont pas le temps. Au départ, on est pressé. Car ils ont un but, ils n'ont pas le temps.
À la prise de son ce soir, c'était Jean-Guilain Meige. À la réalisation, Lise Marie Barré. Par les temps qui courent, c'est Romain Debecq de Lièvre. Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Lucie Riandet. C'est aussi une page sur franceculture.fr, Par les temps qui courent. Et l'émission à réécouter, à podcaster via l'appli Radio France ou toutes les manières qui vous feront plaisir. Dans un instant, 22h sur France Culture, le journal. Belle soirée.